Bonsoir. Situation sécuritaire en RDC, la conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO, et l'église du Christ au Congo, SCC, ont entamé une série de consultations auprès de certaines personnalités du pays. L'objectif est de présenter leur projet des sorties de crise à travers le pacte social pour la paix et le vivre ensemble. Après avoir rencontré le président de la République, Félix Tshisekedi, Monseigneur Donatien Cholet, secrétaire général de la CENCO, et révérend Eric Senga, porte-parole des LCC, ont échangé tour à tour avec Bital Kamere, président de l'Assemblée nationale, et Martin Fayoulou, président de l'ECID. Ce projet a pour finalité, indiquent les initiateurs, le renforcement de la cohésion nationale dans le pays. Que pensez-vous de cette initiative des églises catholiques et protestantes pour renforcer la cohésion nationale en RDC? Participe au débat de ce soir Monseigneur Donatien Cholet, secrétaire général de la Conférence épiscopale nationale du Congo. Monseigneur Cholet, bonsoir.
Bonsoir.
Aussi avec nous dans ce débat, Jean-Michel Kialongi, membre de l'Union sacrée de la Nation et coordonnateur de la base pour le développement du Congo, BDC en sigle. Il est aussi membre du regroupement politique de Zahbar TDC, une des mosaïques de l'UDPS, sous la coordination du professeur Isaac Jean-Claude Chilumbaï. Jean-Michel Kialongi, bonsoir.
Bonsoir.
Et Faustin Kouakoua, secrétaire général adjoint de l'ECID, en charge de la coordination des opérations de vote. Faustin Kouakoua, bonsoir.
Bonsoir, madame.
À Beni, dans la province du Nord Kivu, vous nous suivez sous la 92.0. Et si vous êtes en dehors de la RDC, merci de nous rejoindre sur www.radiookapi.net, sur DSTV canal 867. Vous avez aussi la possibilité de suivre cette émission en direct sur la page Facebook, le compte X et la chaîne YouTube de Radio Okapi. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocafi.net.
Je l'ai dit dans le sommaire, la conférence épiscopale nationale du Congo et l'église du Christ au Congo ont entamé une série de consultations auprès de certaines personnalités du pays. L'objectif est de présenter leur projet de sortie des crises à travers le pacte social pour la paix et le vivre ensemble. Les représentants de ces deux églises ont déjà rencontré le président de la République, Félix Tshisekedi, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, et le président de l'ECID, Martin Fayoulou. Grâce à Mzati, nous fait le point.
Cette délégation conjointe était constituée du cardinal Fridolin Ambongo, Mgr Fulgence Moutebar, chevêque de Lubumbashi et président de la CENCO, du pasteur André Bokondoa, président de l'ECC, de Mgr Donatien Cholet, secrétaire général de la CENCO, et du pasteur Eric Senga, secrétaire général de l'ECC. Pasteur Eric Senga parle de leur initiative auprès du président de la République.
Les églises ont estimé qu'à cette étape des événements, il était beaucoup plus important d'amener une proposition concrète susceptible de créer un consensus national. Est-ce que nous avons aimé ce que le chef de l'État est revenu sur deux mots-clés qui dit il nous faut la cohésion nationale, il nous faut la compréhension commune sur le défi qui pèse non seulement sur la personne de Félix Tshisekedi, mais sur le destin de notre pays.
À l'issue de cette rencontre, le cardinal Ambongo a tenu à témoigner toute la compassion des deux églises aux personnes victimes de la guerre d'agression dans l'est du pays.
Nous sommes troublés comme pasteurs par la situation qui vit actuellement nos frères et sœurs à l'est du pays. Qu'est-ce que ces gens ont fait pour mériter un traitement aussi indigne de l'être humain et qui dure depuis pratiquement trois décennies. Pour nous, c'est incompréhensible.
Monseigneur Cholet a par ailleurs rassuré l'opinion sur ce que d'aucuns considèrent comme silence de l'Église sur la guerre de l'Est, en justifiant que c'est par rapport au travail que l'Église mène actuellement.
C'était plutôt Billy Yvon Lutumba et non Grâce Amzati. Monseigneur Donatien Cholet, je rappelle que vous êtes secrétaire général de la Conférence épiscopale nationale du Congo. Vous avez rencontré le président Félix Tshisekedi pour lui proposer votre projet de sortie des crises, un projet qui pourrait mettre fin à la crise qui secoue le pays actuellement. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus par rapport à ce projet? De quoi est-il question concrètement?
Au regard de l'échec, je peux m'exprimer librement ici, de l'approche militaire, au regard des résultats mitigés de l'approche actuelle de la diplomatie, les deux églises se sont mises ensemble, fortes de leur foi en Jésus-Christ, prince de la paix, et qui nous invite à être les artisans de paix, s'inspirant de la sagesse africaine de la parole de Bumuntu, propose à la communauté nationale un pacte social en faveur de la paix et de bien vivre ensemble. Il s'agit simplement d'obtenir que les Congolais se retrouvent ensemble autour d'une table pour échanger sur les principales questions qui engagent l'État, qui engagent la gouvernance, qui concernent la sécurité, particulièrement dans l'Est du pays, analyser les causes profondes des crises qui perdurent depuis une trentaine d'années et trouver ensemble des solutions. Donc, il s'agit de s'engager dans une approche qui favorisera une compréhension commune de la crise et qui engagera tout le monde dans une direction qui nous permettra de nous mettre d'accord sur ce que nous appelons un pacte social qui sera un document qui va consigner les fondamentaux de l'État que nous voulons comme garant de la paix durable en RDC.
Alors, Monseigneur Donatien Cholet, est-ce qu'on peut parler de dialogue? Ce que vous recherchez derrière cette initiative, c'est un dialogue national.
Exactement, mais généralement, dans ces pays, quand on parle de dialogue, on voit avant tout partage du pouvoir.
Contrairement est-ce que ça ne risque pas d'être le cas?
Contrairement au dialogue de Saint-Sylvestre, où les politiques étaient au centre, ici, nous proposons en un mot les réflexions autour des commissions thématiques relatives à la paix, politique, paix, sécurité, économie, etc. Il s'allie au fait d'œuvrer, de réfléchir pour poser le fondement du renouveau de l'État congolais. De telle manière que, quels que soient les pouvoirs qui se succéderont, ils se rendent compte que le peuple congolais s'est réuni un jour et veut que désormais le pays soit dirigé de telle manière. Évidemment, il y a le volet politique qui est là, qui ne devrait pas prendre le dessus sur tout le reste.
Justement, avec la situation sécuritaire qui sévit dans le Kivu, est-ce opportun d'organiser ou de mener cette initiative? Ça sera quoi le lien entre cohésion nationale, bien sûr, et mettre fin à la guerre dans le Kivu?
Mais justement, pourquoi est-ce que c'était en prise les armes? Nous ne savons pas le dire à leur place. Nous voulons justement cette approche et justement décourager l'approche militaire. Il y en a qui n'ont pas pris les armes, mais nous savons qu'ils lorgnent du côté de ceux qui ont pris les armes. Parce qu'ils expriment certaines frustrations, certaines déceptions. Est-ce que c'est la meilleure voie pour répondre à ces défis? Donc nous voulons justement que même ceux qui ont pris des armes viennent autour d'une table pour qu'ensemble nous trouvons des solutions pacifiques.
Vous avez déjà rencontré le président Félix Tshisekedi, le président de l'Assemblée Vital Kamerhe, l'opposant Martin Fayulu. Jusqu'où comptez-vous aller? Est-ce que vous allez voir aussi ou chercher à rencontrer les dirigeants du mouvement rebelle M23, soutenu par le Rwanda et même le président Kagame?
Eh bien, l'approche que nous proposons a deux niveaux, un volet national et un volet international. Au volet national, rien à faire, il faut impliquer ceux qui ont pris les armes. Et nous voulons justement qu'on renonce aux armes, qu'on trouve des solutions, comme nous recommande le pape, de position pacifique. Alors, quand on se sera mis d'accord, comme Congolais, autour de ce que nous voulons comme pacte social au niveau national, alors le Congo parlera d'une seule voix au niveau sous-régional. C'est à ce niveau-là qu'on pourra approcher le président comme Kagame et les autres aussi qui sont impliqués de l'une ou l'autre façon dans la paix dans les Grands Lacs.
L'urgence aujourd'hui, c'est trouver des solutions pour mettre fin à la guerre dans l'est de la RDC. Alors, vous parlez d'abord de pacte social, mais est-ce que c'est ça l'urgence, Monseigneur Donatien Cholet?
Justement, le pacte, c'est faire de la paix la priorité des priorités en 2025. Donc, l'objectif de ce forum national, c'est justement poser le socle d'une paix durable à RDC.
Et qui prendront part à ce dialogue?
Ah ben c'est très tôt de le dire. Nous sommes en train de consulter et puis nous n'avons pas à dicter. On viendra avec les propositions. La prochaine étape, ce sera demain déjà dans l'après-midi à 14h. On va rendre public les propositions des différentes commissions thématiques autour desquelles nous proposons des réflexions en atelier. Ça reste à titre indicatif à améliorer. On peut proposer d'en ajouter et on va identifier, on va demander aux différentes forces vives sociopolitiques d'envoyer des représentants selon leur expertise dans chaque commission. Et comme secrétariat technique, nous chercherons aussi des experts à la matière qu'on aura identifiée qui n'ont pas été comptés par les politiques. Et tout ça dans le souci d'obtenir une crème de concitoyens qui vont nous aider à approfondir les différents aspects en rapport avec la paix.
Il y a un auditeur qui nous écrit, oui, allez-y.
Alors, c'est les résultats ou les résolutions de cet atelier qui vont être la matrice du dialogue dont nous ne pouvons pas unilatéralement imposer la configuration. C'est la raison de tout ce que nous sommes en train de faire.
J'ai déjà un auditeur qui nous écrit depuis la ville de province de Kinshasa. Il pense que c'est une très bonne initiative à saluer, car pendant ce temps, nous avons besoin de la cohésion sociale pour soutenir l'armée qui se bat contre le Rwanda avec ses marionnettes du M23. Cependant, la SENCO et l'ECC doivent associer les autres confessions religieuses dans leur démarche pour avoir une cohésion sociale très large.
Je suis tout à fait d'accord, sinon ça n'aurait pas de sens d'appeler les autres à leur conscience sans que nous-mêmes. Donc, il est vrai que nous nous sommes détachés de la plateforme de confession religieuse pour les problèmes purement politiques pour ne pas être embrouillés par les politiciens. Mais nous sommes souvent ensemble, par exemple, pour des questions de protection des forêts. Il y a une initiative interreligieuse, on se retrouve avec les autres confessions religieuses. Ici, il est question de la paix, tout le monde a sa place et nous avons déjà commencé de vous parler avec eux.
Alors, comment le chef de l'État, par exemple, a accueilli cette initiative, très brièvement
Ah ben, il a d'abord suivi avec attention, l'entretien a duré 2 heures, parce qu'il voulait bien comprendre et de ce qu'il a compris. Et là, en tout cas, était très réceptif. Il a encouragé. Il dit, dans la mesure où ça rejoint sa préoccupation de l'unité nationale, le besoin de la compréhension commune de la crise, il nous a demandé d'aller de l'avant. Et comme il venait à peine de recevoir la feuille de route, il a besoin de temps pour s'imprégner des détails des orientations que nous proposons. et dans un bref délai, il pourrait y répondre. Mais il dit que c'est vraiment une initiative louable pour répondre, reprendre ces mots.
Jean-Michel Kalungi, membre de l'Union sacrée de la Nation et coordonnateur de la base pour le développement du Congo, qu'est-ce que vous pensez de l'initiative des églises catholiques et protestantes pour trouver une solution ou pour renforcer la cohésion nationale en RDC?
Je pense que cette initiative, elle est acceptée, elle est louable, parce qu'il faudrait parler de la paix. Au jour d'aujourd'hui, quand nous parlons de la situation sécuritaire dans notre pays, c'est plus de 3 millions de morts. Donc c'est des populations de certains pays. Nous avons aujourd'hui plus de 3 millions de déplacés internes. Nous avons aujourd'hui une situation préoccupante. Alors il faudrait parler de la paix, il faudrait parler et demander à tous les Congolais de se mettre sur la même table. Mais je voudrais ici, comme tu l'as soulevé tout à l'heure...
Vous appuyez donc le dialogue.
Nous appuyons le... En ce qui me concerne, je ne pense pas qu'il est interdit aux Congolais de discuter, de parler du Congo, de parler de la paix. Parce que si c'est une autre façon de mettre fin à cette situation, il faudrait les faire. Mais tout en rappelant qu'il ne faudrait pas que les mêmes erreurs commises dans le passé se répètent. Nous sommes ici, aujourd'hui, plus de 20 ans après. En 2003, nous avons eu les accords de Sun City, qui nous ont amené brassage, qui nous ont amené réintégration des troupes rebelles. En 2009, quand le président Kabila a voulu déplacer le commandement militaire de l'Est, ils se sont rebellés et nous avons eu CNDP, nous avons eu le M23 et cette situation perdure aujourd'hui. Nous avons connu des rebelles qui sont venus avec des grades qu'ils se sont donnés pendant la rébellion et ces grades et ces positionnements ont été acceptés dans l'armée. Aujourd'hui, nous parlons des infiltrés, nous parlons de la corruption au sein de corps militaires. C'est parce que tout simplement nous avons accepté ces belligérants. Quand un militaire s'est déjà révolté, quand un militaire est déjà devenu rebelle, il le reste à vie. Vous pouvez l'intégrer aujourd'hui, mais demain, il va répondre à la politique du plus offrant. Donc, pour nous, il faudrait que dans ce pacte social pour la paix et le bien-vivre en RDC que nous propose l'Église catholique, il faudrait que nous puissions être vigilants sur la réintégration et les discussions que nous devons mener avec le groupe rebelle pour ne pas tomber dans la même situation. Il ne faudrait pas qu'aujourd'hui nous puissions féliciter ceux qui ont pris les armes en leur donnant des postes, en leur donnant une réintégration et une impunité totale.
Mais vous estimez qu'il faut quand même dialoguer avec eux, avec ceux qui ont pris les armes.
Mais sur certaines conditions.
Lesquelles, par exemple?
Il faudrait que s'ils doivent revenir, on doit d'abord analyser quelles sont les infractions qui sont imputables à chacun, lesquelles nous pouvons donner l'immunité, et lesquels nous ne pouvons, sur lesquels on ne peut pas accorder l'immunité. Et leur réintégration, il ne faudrait pas que l'on trouve des personnes qui, aujourd'hui, nous sommes la seule armée à avoir le plus de généraux parce que chacun est venu avec ses grades. On doit analyser le parcours militaire de chacun, savoir son intégration, et il doit répondre obligatoirement au commandement militaire du pays et non au commandement d'où il vient. Parce que ça, nous avons connu après Sun City, les militaires ont refusé le brassage, ils ont refusé les déplacements, ils ont voulu rester dans les zones qu'ils géraient dans le temps. Donc ces situations-là, il ne faudrait pas que nous les répétions, sinon nous allons reprendre à zéro.
Il y a quelques temps, l'UDPS était contre le dialogue. C'est Martin Fayoulou qui avait d'abord proposé ce dialogue-là. Le parti au pouvoir l'avait rejeté. Qu'est-ce qui a changé entre-temps? C'est par rapport à la situation de Goma que vous êtes d'accord aujourd'hui de pouvoir prendre part à ce dialogue ou qu'on puisse organiser ce dialogue?
Pas du tout. Nous refusons le dialogue pour le poste. Parce que ce que nous constatons, après les élections, le peuple s'est choisi des autorités, mais très vite nous allons dans des dialogues, nous voyons ceux qui ont échoué, ceux qui n'ont pas été plébiscités par le peuple, revenir dans la gestion et il y a partage de pouvoir. Il faudrait qu'aujourd'hui nous puissions se mettre dans une position où on accède au pouvoir que par les élections. Mais qu'à cela ne tienne, nous sommes face à des milliers de morts. Et que quand nos pères spirituels, l'Église catholique, l'Église protestante, viennent et rencontrent l'autorité suprême du pays, le chef de l'État, qui dit qu'il est favorable, nous voudrions bien voir ce que l'Église catholique va nous proposer. Mais nous tirons déjà la sonnette d'alarme que, sur certains points stratégiques, il faudrait que nous soyons très regardants pour ne pas tomber dans le piège du passé. Voilà pourquoi le président Félix Tshisekedi, qui ne veut pas donner une prime à la guerre, aux rebelles, aujourd'hui il faudrait se révolter, faire une mutinerie, créer un groupe rebelle pour accéder au pouvoir. C'est cette accession du pouvoir par le sang du Congolais que le président Félix Tshisekedi ne veut plus. Donc, dans les discussions, dans les propositions de l'Église catholique, il faudrait que nous soyons très vigilants sur la question. Et aussi très vigilants sur les questions économiques. Parce que j'ai vu dans la proposition de l'Église catholique, il nous parle des discussions sur le plan national et international, sur le plan socio-économique. Il faudrait que dans ces discussions, nous puissions régler définitivement le problème des exportations de nos minerais dans la partie est du pays. Parce que toutes les guerres que nous avons, ce ne sont pas des guerres qui sont liées à des revendications nobles, mais c'est justement sur le pillage de nos minerais et qui sont alimentés par les pays voisins. Donc dans cette solution-là, il faudrait que nous puissions arriver à régler la question des exportations illégales pour que le Congo puisse être sauvé. Aujourd'hui, la communauté internationale doit nous aider sur la traçabilité de nos matières premières. Parce que les minerais doivent être tracés. Aujourd'hui, le Rwanda qui n'a aucune mine est premier exportateur de coltan, est premier exportateur de la cassitérite. Comment cela ça s'est fait? Et j'appuie le discours qu'a tenu son Excellence Madame la Première Ministre à Indaba pour relever cette situation-là. Il faudrait que nous, la communauté internationale et le système de traçabilité de minerais, le système Kimberley, puissent agir fortement sur ces questions-là pour que la partie Est puisse être démilitarisée et puisse être structurée pour le bien du peuple congolais. Nos minéraux ne peuvent pas être source de notre mort, de la guerre du peuple congolais.
Merci. Faustin Kwakwa, secrétaire général adjoint de l'FID en charge de la coordination des opérations de vote. Qu'est-ce que vous pensez de cette démarche de l'Église catholique et protestante?
Madame, merci pour la question. Vous savez, aujourd'hui, il y a des guerres qui se disent. Et l'expérience nous montre que les gens qui se font la guerre finissent par se mettre autour d'une table pour négocier.
Alors professeur.
Et pour ce qui concerne les différents pays spécifiquement, pour faire face à ces guerres-là, on pourra voir l'expérience de l'Israël aujourd'hui, on pourra aller voir l'expérience de l'Ukraine. Il y a une démarche qui se fait qu'on appelle cohésion nationale, tous ensemble comme peuple pour pouvoir contrer, évidemment, les attaques qui viennent de l'extérieur ou de l'étranger. Et je pense que le deuxième préalable, depuis mars 2024, après notre Conseil national, dans le Conseil national de l'ICD, en août 2024, à son retour des États-Unis, et le 30 juin 2024, le président Martin Fayulu est revenu successivement à cet appel en faveur de la cohésion nationale. Et on voit dans quel contexte cela se faisait. Il a fixé quatre objectifs pour cette cohésion nationale. Premièrement, en face de l'agression dont nous sommes victimes, le président Fayoulou a parlé de la nécessité de restaurer l'intégrité territoriale, mettre fin à la guerre et restaurer la souveraineté nationale. Deuxième point, mettre fin à la prédation des ressources publiques afin de réduire le train de vie excessif des institutions et mobiliser les fonds nécessaires pour prendre en charge notre armée, renforcer notre armée, prendre en charge la vie des soldats comme de leurs familles. Troisième point, c'était construire un véritable état de droit en garantissant évidemment le respect des droits humains, la justice et l'équité pour tous. Et là, on demandait justement qu'on cesse avec les arrestations arbitraires des opposants, des journalistes, ainsi de suite. Et enfin, préparer les réformes institutionnelles qui devaient nous amener à réviser la loi électorale, les structures de la CENI, la Cour constitutionnelle. Pourquoi ? Parce que ces structures-là constituent des bases pour une élection véritablement transparente, crédible et apaisée. Ça ne sert à rien de prétendre que nous, on a été élus alors que les animateurs sont illégitimes parce qu'ils sont passés par la tricherie, par des négociations et on continue à se taper la poitrine. Il y en a qui n'ont pas été élus.
Mais est-ce que ce discours n'est pas dépassé, professeur?
Les gens l'avons de dire eux-mêmes pourquoi ils ont pris les armes. Les frustrations issues des élections mal organisées, ça peut pousser les gens à des choses comme celle-là. Donc, tous ces aspects-là nous amène à prendre conscience de cette nécessité de nous mettre ensemble. Aujourd'hui, la donne a un peu évolué, parce que voilà, malheureusement, on a laissé pourrir la situation aujourd'hui. Goma est entre les mains des étrangers, des Rwandais, avec le M23. Alors, qu'est-ce que nous disons de l'initiative des évêques? Nous sommes totalement d'accord avec cette initiative qui rejoint évidemment, comme nous l'avons dit, vous l'avez même vous-même fait remarquer que Fayoulou l'avait déjà dit, ce que nous avons pensé. Et la délégation a vu le président Martin aujourd'hui, ce matin, ils ont échangé, le président a apporté aussi quelques propositions, j'espère qu'ils en prendront compte, pour pouvoir aller de l'avant. Parce que cela est une nécessité qui nous incombe, que nous puissions en toute humilité, pour le bien de la nation, prendre conscience qu'aujourd'hui, il n'y a pas une autre issue. Qu'on n'a pas à se targuer inutilement de l'orgueil, de la vanité. Nous sommes là pour sauver la nation. Nous devons nous mettre ensemble, discuter, échanger et tracer un chemin nouveau où les uns et les autres doivent reconnaître les erreurs du passé qui ont apporter vraiment beaucoup de préjudice à notre nation et que de manière résolue aujourd'hui, comme les évêques le disent, si vraiment nous signons un pacte, que ce soit un pacte comme dans notre tradition, les pactes, ceux qui signent le pacte sont appelés à le respecter, à ne jamais le transgresser. Sinon, évidemment, vous encourez des conséquences d'ordre traditionnel. Il faut bien comprendre le sens de ces pactes-là. Et quand on y arrivera, on espère que de manière résolue, au regard de tous les méfaits que notre histoire est jalonnée, que nous allons nous mettre sur un chemin qui va vraiment construire un pays, un Congo nouveau, pour des aspirations nouvelles et surtout l'épanouissement de son peuple. Voilà ce que je peux dire à ces livres.
Alors, il y a Maître Hubert Batundi, qui est défenseur judiciaire près le tribunal de grande instance de Goma. Il nous suit depuis Goma. Il se demande jusqu'à quand ces rencontres qui ne produisent jamais des résultats, ce n'est vraiment pas ce que le peuple congolais attend aujourd'hui, surtout la population de l'Est, la sortie des crises à travers le pacte social pour la paix et le vivre ensemble, pas en cette période de guerre. Il estime que la cohésion sociale existe. Il faut trouver maintenant d'autres voies de sortie parce que la population de l'Est en a marre.
La question est posée, madame.
Oui, vous avez essayé pour vous, professeur Kwakwa.
Je comprends. Je comprends l'attitude, l'amertume même notre peuple à l'Est. J'aimerais dire à mon frère qui pose cette question que vous voyez, le vrai problème en fait réside en l'homme congolais qui souvent ne respecte pas. J'entends ce que mon ami Kalogi venait de dire là. Mais souvent le vrai problème c'est le manque de respect des engagements pris. Quand on se réfère au pacte républicain signé à Sam City, quand on se réfère à la constitution issue de Sam City, mais pourquoi aujourd'hui ces choses-là ne sont pas respectées pour que ça puisse susciter justement ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui? Le problème, ce sont les hommes qui ne respectent pas les engagements, qui ne respectent pas même les résultats électoraux, même l'organisation des élections. C'est là où se trouve le problème. Si aujourd'hui, à travers ce pacte pour la paix et le vivre ensemble, les gens acceptent que nous allons changer notre manière de voir, car nous sommes au pouvoir, nous devons savoir que le pouvoir c'est pour le peuple et non pas pour prendre l'argent de l'État, s'enrichir de manière insolente, à ce moment-là, ça va commencer à changer. Ça va commencer à changer. Et en respectant les textes que nous nous fixons, que nous nous acceptons, la paix pourra revenir. Parce que si les Congolais ensemble sont, ne créent pas des situations qui les opposent les uns les autres, qui les divisent, l'extérieur, l'étranger n'entrera pas. Et le Goma sera en paix, l'Est sera en paix. Mais si nous continuons toujours à faire ce que nous avons fait depuis des années, nous ouvrons des brèches pour que l'étranger manipule les uns, l'étranger manipule les autres, et que les conflits puissent toujours aller de l'avant.
Merci.
J'estime que ces expériences vont nous servir de leçon. Si vraiment les leaders politiques, les leaders dans tous les secteurs ont compris, ont réfléchi sur ce que ces expériences nous ont apporté au pays, que nous sommes devenus la dérision des pays d'Afrique, il faut qu'on se ressaisisse et que nous puissions maintenant travailler sur des bases nouvelles et qu'en signant ces pactes-là, en nous engageant à respecter les résolutions, et nous verrons le Congo comment naître de ses cendres.
Vous êtes très nombreux à nous suivre en direct sur la page Facebook de Radio Capi ainsi que sur le compte X et la chaîne YouTube Rigobert Bazitissa. Le Congo est devenu comme un drap où chaque parti politique ou chaque politicien tire le drap de son côté, mais rien de concret pour le retour de la paix Tchikuru Mugaruka. Nous voulons que cette guerre prenne fin avec les armes et non avec la négociation. Voilà, Onikar Banza salue la démarche de la CENCO et des LCC. Vous êtes très 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 nombreux à nous écrire. Hein. On va lire au fur et à mesure les messages qui tombent. Voilà, on va ouvrir hein, aussi, on profite aussi pour ouvrir le standard et prendre ces autres auditeurs qui nous appellent de partout. On va commencer par cet auditeur qui nous appelle de Bukavu, au sud Kivu. Ça sera pour vous, Monseigneur Mounassien Acholi.
Maître Ulimwengu Kitungano Joseph, depuis la ville de Bukavu. Cette initiative des hommes dédiés est à saluer, mais selon moi, c'est une distraction totale. La seule situation qui peut sortir un pays dans une crise sécuritaire ou humanitaire, c'est la négociation, si on n'a pas du moins la force d'engager les combats ou de se battre. La paix peut être retrouvée dans deux voies principales, soit à travers la négociation, soit à travers la guerre. C'est là qu'on trouve en latin un adage qui dit « qui vis pacem farabet lumen ». C'est-à-dire qui veut la paix prépare la guerre. Dans le contexte actuel de la RDC, il se voit que seule la négociation peut résoudre les conflits à l'Est et nous ramener la paix. Je soutiens aussi la décision des pays ayant les droits de veto au sein du Conseil de sécurité de l'ONU qui appelle le gouvernement congolais à dialoguer. C'est la seule voie qui peut nous ramener la paix. que ce soit avec les M23 ou les Rwanda, l'essentiel qu'on dialogue et que les conditions soient équilibrées afin de ne pas pénaliser l'une des parties au dialogue pour que la paix durable puisse encore régner dans notre pays, la RDC.
Monseigneur Lula Siachole, que pensez-vous de ce point de vue hein, de cet auditeur de Bukavu qui nous a appelé?
Je suis tout à fait d'accord avec lui. J'ai l'impression qu'il n'a pas compris le pacte que nous proposons. Le forum national qui n'amènera au pacte, c'est une forme de négociation, un espace de négociation. Sauf qu'il y a deux niveaux, il y a des négociations au niveau national interne, il y a des négociations au niveau externe. Nous disons que pour aller aux négociations au niveau externe, ça ne doit pas être l'affaire seulement du pouvoir de Kinshasa, l'Union sacrée, et le Congo qui est agressé. C'est toute une dynamique nationale qui doit être créée pour que nous soyons plus forts. Donc, le projet de pacte social là, encourage justement les négociations, et là, comme il est dit.
Après Bukavu, on va se rendre à Kolwezi pour écouter cet autre auditeur. Ça sera pour vous, Jean-Michel Kalongi.
Moi, c'est Adonis Oswald Kamengwa, depuis Kolwezi, province du Lualaba. Je salue l'initiative de la SANCO et SEC qui tombe à point nommé et vaut son pesant d'or pour une république dont la stabilité est menacée. L'union fait la force, dit-on. Cette démarche ne doit pas se limiter aux quelques figures de proue politique au pays. Elle doit s'étendre jusque dans la diaspora. Question de faire appel aux exilés et prisonniers politiques. Et au besoin, solliciter l'expertise de l'ex-chef de l'État, M. Joseph Kabila Kabange, là où il y a choc des idées, jaillit la lumière.
Brève réaction, Jean-Michel Kalongi.
Oui, comme nous l'avons dit ici, et comme Mgr Cholet l'a dit tout à l'heure, le président de la République a été réceptif de la proposition. Et comme je l'ai souligné, il faudrait dialoguer, mais être prudent sur certains points stratégiques pour que nous ne puissions pas retomber dans les mêmes erreurs du passé.
Alors, la participation de la diaspora, faire appel aux exilés et prisonniers politiques et au besoin solliciter l'expertise de l'ancien président Joseph Kabila Kabange.
Il faudrait savoir que le président Joseph Kabila a été président de la République démocratique du Congo pendant 18 années. Donc il a son mot à dire dans le processus dans ce pays. Nous ne refusons pas le droit d'être congolais et de participer si les organisateurs qui sont la SEMCO pensent qu'il il doit être invité et s'il accepte, s'il est convié, nous n'avons pas le droit de dire non ou de dire que nous imposons une liste à la SEMCO pour que le pacte que nous propose la SEMCO puisse en soi être validé. Il faudrait laisser la SEMCO plus ou moins le libre champ d'émettre sa pensée et la stratégie comme ils l'ont conçue dès le départ. Mais qu'à cela ne tienne, nous voudrions dire qu'il faudrait rester sur certains principes pour ne pas vendre le pays.
Merci.
Protéger la souveraineté nationale avant toute chose.
On revient à Kinshasa hein, pour écouter ce dernier auditeur qui appelle. Hein.
Depuis la commune de la Gombe à Kinshasa, je suis Alex Eko Yoshua. Quand Staline avait fait la guerre aux nazis en 1942, il n'avait pas besoin de tout ce cirque. Il s'était concentré sur l'armée et sur la guerre. Dites au président Tshisekedi d'abandonner tout ce spectacle de la SENCO pour se concentrer uniquement sur la guerre. Mobilisation, formation des soldats, équipement, ravitaillement et renfort. Quelles sont les raisons opérationnelles de notre échec à Goma? Rectifions et boutons dehors l'ennemi, le reste est une distraction.
Professeur Kwakwa, il faut se concentrer sur la guerre, c'est ça qui est essentiel, c'est ça qui est important aujourd'hui, selon cet auditeur qui nous a appelé depuis la commune de la Gombe.
Aujourd'hui, tous les Congolais sont en émoi parce que Goma est tombé. Les gens oublient qu'avant que Goma ne tombe, il y a 2 ans, Bunagana a été pris. Plusieurs territoires, Rutshuru, Nyiragongo, ont été entre les mains de rebelles et de militaires rwandais. Pourquoi on n'a pas pu repousser ces gens-là? Les gens doivent regarder les choses en face. Je l'ai dit, que même ceux qui font la guerre, aujourd'hui on voit, Zelensky est en train de négocier avec les Américains pour qu'on trouve un terrain d'attente avec le Russe. On voit maintenant, l'Israël vient de signer une trêve avec Hamas, ils sont en train de chercher. Toutes les guerres finissent toujours par des arrangements. Et Staline a fait la guerre aux Allemands, il n'était même pas seul, c'était toute une coalition. Peut-être qu'il était parti seul, il n'allait même pas arriver là où il est arrivé. Donc le problème aujourd'hui, c'est justement d'abord prendre conscience de notre propre situation. Les gens peut-être ne se rendent pas compte. Qu'on prenne conscience de notre situation, de la gestion de notre propre pays. Est-ce que tel que le pays est géré, tel que notre armée est organisée, est-elle capable d'aller affronter celui-là, de trouver des solutions par la guerre? Nous ne pouvons pas nous voiler la face. De l'autre côté, qui sont là comme acteurs? Nous le savons. Nous parlons justement de la présence rwandaise, qui sont très armés, ainsi de suite. Nous ne disons pas que les Congolais ne peuvent pas faire face, mais il faut d'abord, si on veut suivre ce chemin, qu'il prendra des années et des années pour réorganiser l'armée et faire la guerre au Rwanda. Pendant ce temps, il y aura combien de morts?
Mais pendant c'est que vous serez ici à Kinshasa en train de vous rencontrer, discuter, de l'autre côté, la guerre va continuer.
C'est appréciable et louable pour que nous trouvions une solution, nous espérons en peu de temps, pour que le Congo aille de l'avant.
Mais
nous n'avons que
quoi
faire de cette guerre qui va occasionner des pertes et des pertes énormes. Surtout à l'état actuel, c'est pas la solution.
Mais Faustin Kwakwa, pendant que vous serez à Kinshasa en train d'organiser ce dialogue, d'abord en train de discuter qui doit prendre part au dialogue, qui ne doit pas être là, comment ça va se passer, qui va financer tout là, la guerre est en train de se poursuivre à Goma, les gens sont en train de mourir. Est-ce qu'on va attendre les recommandations de ce dialogue pour, je sais pas, pour les appliquer et mettre fin à cette guerre? Est-ce que c'est vraiment urgent aujourd'hui? Est-ce que c'est opportun d'avoir ce dialogue?
Bon, tel que vous êtes en train, madame, pendant que on fait cette démarche-là, vous dites de l'autre côté la guerre. Si cette guerre se poursuit, tel qu'on a dépassé notre armée à Goma, mais en peu de temps, ça va arriver à Kinshasa. Aujourd'hui, nous avons appris qu'ils ont décrété une trêve. C'était le feu unilatéral de l'autre côté. Et je pense que la CENCO et les CC qui ont pris l'initiative savent comment ils vont travailler. Ils vous ont dit qu'ils vont contacter tout le monde. Je pense qu'à leur niveau, ils savent comment ils pourront contenir ceux qui sont là, qui sont aussi appelés à intervenir, pour pouvoir arrêter les hostilités. Parce qu'il est évident, si nous pouvons nous voir ensemble, on ne peut pas continuer les hostilités. Il y a nécessité que les hostilités s'arrêtent, il y a nécessité que les armes soient déposées, et comme ça on peut dialoguer, on peut se mettre ensemble et créer des structures. À l'étape actuelle des choses, évidemment, moi je ne saurais pas répondre, je ne sais pas au niveau des organisateurs s'il y a déjà des ponts qui sont jetés, s'ils ont déjà quelques contacts pour savoir quelle est la disponibilité, qu'est-ce que les autres là pensent, mais en toute logique, ça ne pourra que se passer comme ça. Ça ne pourra que se passer comme ça. Voilà. Alors sinon on dit, nous nous préparons à la guerre, à préparer la guerre, restructurer l'armée, combien d'années ça va prendre? Et pendant ce temps, c'est justement l'occasion que
on peut leur donner des plus belles pour avancer et arriver à Kinshasa, parce que la déconfiture, il ne faut pas cacher les mots, de l'organisation de notre armée laisse à désirer.
Nous sommes à la fin de notre émission. Je vous demandais d'être concis dans vos conclusions. Monseigneur Donatien Choulet, il y a Marcel qui nous écrit depuis Lingwala, qui vous demande d'insister plus sur la question sécuritaire plutôt que politique.
Je crois qu'il n'a pas tort, mais les deux sont liés. Une mauvaise politique peut amener à l'insécurité. Une bonne politique de gestion du pays peut renforcer la sécurité. Donc chaque commission a sa place. J'ai saisi l'occasion pour dire à l'autre interlocuteur là plutôt, il y a une commission aussi dédiée à la diaspora. Et je finirai par dire que nous ne voyons pas une autre solution que impact social pour éviter un bain de sang.
Alors, juste une petite question très rapidement en passant. Aujourd'hui, plusieurs organisations internationales demandent à la RDC de discuter, hein, c'est notamment en l'EAC, de discuter directement avec le M23. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez, Monseigneur Cholet?
Bon, le président de la République s'est prononcé là-dessus, mais si le M23 sont de commission de Congolais, ils devraient être à l'aise de discuter à côté des autres Congolais.
Jean-Michel Kalogi, votre conclusion?
Je voudrais dire que il ne faudrait pas que nous rentrions en arrière. Sur trois fois déjà, nous avons eu des élections dans ce pays. Le pacte républicain qui nous lie aujourd'hui veut que, à chaque cinq années, nous puissions nous choisir nos dirigeants. Et malheureusement, avec des dialogues en répétition, nous voyons qu'il y a des politiciens de salon qui se bombent les torses que dans les dialogues pour pouvoir s'accaparer des postes prestigieux alors qu'ils n'ont pas le soutien du peuple congolais. Il faudrait que ces situations cessent, mais aussi dire qu'un État sait gérer. Le président Tshisekedi prend la mesure de la situation et que la guerre, nous n'allons pas dire que nous allons nous retirer du champ des guerres. Il faudrait rester sur nos positions et que mettre toutes les stratégies en place pour bouter l'ennemi hors du territoire. Bien que entre Congolais, nous pouvons dialoguer, nous pouvons discuter. Nous sommes Africains, c'est autour de la casserole que l'on parle.
Professeur Faustin Kwakwa, votre conclusion. Soyez concis, hein, s'il vous plaît.
Oui, moi je pense que nous continuons à appuyer le processus. Il ne suffit pas de se reposer sur le simulacre d'élection, oublier que ces choses-là créent des organismes et provoquent l'insécurité. Il est vrai, nous devons protéger notre pays, nous devons sécuriser notre pays, mais le Conseil nous demande d'être prudent et responsable, et c'est comme ça, je pense que se retrouver entre Congolais, parce que là j'en appelle aussi à ceux qui ont pris des armes, s'ils estiment qu'ils sont réellement des Congolais, à ce moment ils doivent déposer des armes pour que nous nous retrouvions autour de nos pères spirituels, débattions en toute sérénité les questions qui nous concernent et puis aller de l'avant.
Merci, Dialogue en Congolais, c'est fini pour ce soir. Merci à Guy Maté, Freddy Bikumbi, Jonathan Folani, Hervé Voka, Clément Chimanga, Paul Diassinois qui m'ont accompagné dans la préparation et la présentation de ce magazine. Martin Seboujangwe l'a supervisé à la présentation et la coordination. Kéline Couté, restez branchés sur la fréquence de la paix.